I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Spectacle vivant.
Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Spino et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Thibaut Nassim Ben et réalisée par Thomas Bou. Autour de moi, Caroline Châtelet, Lucille Como et René Solis. C'est une première pour Caroline qui va se détendre bien sûr au cours de cette heure. Bienvenue à vous Caroline. Nous allons parler ensemble de La Dame aux Camélias d'après Alexandre Dumas, fils, mise en scène d'Arthur Nosiciel en ce moment aux Gémeaux, à Sceaux, et puis qui continue sa longue tournée. Nous parlerons de Western d'après le film de La Chevauchée des Bannis d'André de Tott. Mise en scène Mathieu Bauer, c'est au Nouveau Théâtre de Montreuil. Le coup de cœur de Caroline Châtelet sera pour Campana, spectacle du cirque Trottola, lui aussi dans une longue tournée. Ce soir, il y aura un petit salon de Lucille Como avec cette problématique après l'ouverture de la Scala à Paris. Quoi de neuf dans le théâtre privé? Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Un très beau coffret, l'âge d'or du cinéma japonais. C'est le volume 2 déjà édité par Carlotta. Et nous ouvrons cette dispute avec le nouveau spectacle mis en scène par Arthur Nosiciel d'après le roman et la pièce de théâtre La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils. Cette adaptation est co-signée par le metteur en scène avec Valérie Mregen et Pierre-Alain Giraud. C'est Marie-Sophie Ferdan qui tient le rôle titre, mais il y a une grande distribution dont nous parlerons sans doute. C'est un spectacle qui a été créé fin septembre au TNB, Théâtre National de Bretagne, à Rennes, que dirige maintenant Nosiciel. Il est en ce moment à l'affiche des Gémeaux, à Sceaux, avant de poursuivre une longue tournée qui passera notamment par Valence, Reims, Clermont-Ferrand, Caen, Strasbourg ou Marseille. Je donnerai les dates à la fin de cette séquence, mais sachez que le spectacle passera sans doute près de chez vous, donc vous pouvez être concerné par cette dispute concernant La Dame aux Camélias, pour rappel, hein, qui raconte l'histoire d'amour d'un jeune bourgeois, Armand Duval, pour une femme de mauvaise vie, courtisane, Marguerite Gauthier, qui par ailleurs a la tuberculose. Armand va réussir à faire que Marguerite s'installe à la campagne et qu'elle renonce à cette vie de scandale parisien. Mais le père du jeune homme va s'en mêler.
Écoutez, monsieur de Varville, il y a bien des choses vraies à dire sur le compte de madame. C'est une raison de plus pour ne pas dire celles qui ne le sont pas. Or, voici ce que je puis vous affirmer, car je l'ai vu, de mes propres yeux, vu. Et Dieu sait que madame ne m'a pas donné le mot, puisqu'elle n'a aucune raison de vous tromper, et ne tient ni à être bien, ni à être mal avec vous. Je puis donc affirmer qu'il y a 2 ans, madame, après une longue maladie, était si faible que les médecins lui ordonnèrent les os et qu'elle partit pour Bagnères. Je l'accompagnais. Parmi les malades se trouvait une jeune fille à peu près de son âge, atteinte de la même maladie qu'elle, et lui ressemblant comme une sœur jumelle. Cette jeune fille, c'était Mademoiselle de Mauriac, la fille du duc.
La jeune duchesse était au 3e degré de la phtisie. Et peu de jours après l'arrivée de Marguerite, elle succombait.
Oui.
Et le duc, désespéré, retrouvant dans les traits, dans l'âge, jusque dans la maladie de Marguerite, l'image de son enfant, la supplia de le recevoir et de lui permettre d'aimer en elle l'image vivante de sa fille morte. Alors Marguerite lui avoua sa position.
Car madame ne ment jamais.
Naturellement. Ce fut un coup pour lui, car là, cessait la ressemblance avec sa fille. Mais Marguerite était devenue un besoin de son cœur, et sa seule excuse de vivre encore. Il lui demanda si elle se sentait capable de changer d'existence, lui offrant en échange toutes les compensations qu'elle pourrait désirer, ce à quoi elle s'engagea.
Mais, de retour à Paris, troublée seulement par les visites périodiques du duc, Marguerite crut mourir d'ennui et ne se sentit plus la force de tenir sa promesse. Elle lui conseilla sans arrière-pensée de cesser de s'occuper d'elle, car elle ne voulait recevoir plus longtemps les bienfaits d'un homme qu'elle trompait. Il resta 8 jours sans paraître. Ce fut tout ce qu'il put faire. Le 8e jour, Il promit à Marguerite qu'il l'accepterait telle qu'elle serait, pourvu qu'il la vît, lui jurant qu'il ne lui ferait jamais un reproche.
Mais comme elle ne lui rendait que la moitié de son bonheur, le duc a retranché la moitié du revenu, si bien qu'aujourd'hui elle a 50 000 francs de dette.
Que vous offrez de payer. Mais on a mieux de voir de l'argent à d'autres que de vous devoir de la reconnaissance à vous.
D'autant plus que le comte de Giray est là.
Vous êtes insupportable. Tout ce que je puis vous dire, c'est que l'histoire du duc est vraie. Je vous en donne ma parole. Quant au comte, c'est un ami.
Prononcez donc mieux.
Oui, un ami. Mais on sonne. C'est madame.
Voilà pour cet extrait qui me fait me poser beaucoup de questions, parce que moi, je n'ai pas encore pu voir ce spectacle. Ça joue plus tôt que d'habitude, et donc du coup, je n'ai pas pu aller aux Gémeaux. Hein. Ça commence à 20h, donc c'est un peu compliqué. Et mon week-end était déjà rempli d'autres spectacles, dont on parlera plus tard, peu importe. Mais du coup, j'ai ce simple extrait, j'ai vu quelques images, évidemment, de cette production, mais me fait poser beaucoup de questions, notamment sur la question de l'adaptation. Adaptation, si j'ai bien compris et si j'ai bien entendu, et du roman et de la pièce de théâtre. C'est René Solis qui va commencer à nous parler de cette Dame aux Camélias.
Oui, alors effectivement, l'extrait il est intéressant. Je comprends qu'il vous interroge. Alors il faut dire que c'est plus le roman que la pièce de théâtre dans laquelle a puisé Arthur Nozicel. En entendant cet extrait, je me faisais la réflexion qu'en fait, on l'entend très peu, cette musique de la Traviata dont on entend.
C'était une autre question, oui, parce que ça m'inquiétait un peu.
Quelques extraits, et on l'entend pratiquement pas.
Bon,
et
juste dans cet extrait. Voilà.
Alors, on peut dire quand même que c'est un spectacle où on a le temps de penser à autre chose ou de se demander, de réfléchir à ce qu'on est en train de voir, parce que c'est d'abord dire que c'est un spectacle qui s'étire dans le temps, dont la lenteur est une
heures,
des caractéristiques, pas loin de 3 heures, oui, 3 heures même. Bon, alors la lenteur en soi est pas une qualité ou un défaut, donc c'est pas là-dessus.
Pas être Christiane Loupa, il y a pas longtemps ici.
Oui, et d'ailleurs il y a peut-être des choses en commun avec Christiane Loupa. Mais donc d'abord je me suis dit quand même à certains moments. Et c'est drôle en entendant ces bribes de Traviata que, bon, à Traviata, c'est quand même mieux. C'est mieux que la Dame aux Camélias. Et on le sait, c'est-à-dire que on peut se demander quand même quel aurait été le destin posthume de la Dame aux Camélias s'il n'y avait pas eu la Traviata. On n'en sait rien. En tout cas, en entendant le texte d'Alexandre Dumas, je me suis quand même fait la réflexion à plusieurs moments du spectacle que c'était... un peu faible, je veux dire que c'est pas forcément une œuvre sur laquelle il y a tant de choses à chercher aujourd'hui, que d'un point de vue littéraire ça reste voilà un mélo, et que donc j'étais pas très certain de ce que Nozicel avait voulu faire en adaptant La Dame aux Camélias.
Alors déjà, rien que là-dessus, vu les mimiques de Lucille Gomeau, qui pense à peu près le contraire de vous, et sur Traviata et sur Dumas, je vais donner la parole à Caroline Châtelet, du coup, pour avoir ses premières impressions sur ce travail d'adaptation et sur, effectivement, la nécessité, l'opportunité, l'intérêt de monter ce spectacle, peut-être.
Alors, ce qui est certain, donc, comme le disait René Solis, c'est vrai que Arthur Nozicel et Valérie Mrajan ont fait le choix de entremêler roman et pièce de théâtre. Vous dites, René Solis, que c'est surtout le roman que la pièce de théâtre. En même temps, quand on regarde certains choix un peu cruciaux, il y a la pièce de théâtre qui est très présente, si on prend la fin. Il y a aussi la scène pivot dans l'histoire de la Dame aux Camélias, qui est celle de la pièce de théâtre. Donc ces deux scènes, qu'est-ce que c'est ? En fait, il faut savoir que le roman, il offre une vision beaucoup plus réaliste et beaucoup plus crue. Arthur Nozicel lui-même, il le dit, il offre une vision beaucoup plus âpre, une critique aussi de la société. On se souvient peut-être, les spectateurs qui l'avaient vu en 2012, La Dame aux Camélias montée par Franck Castorf, à ce moment-là, il montait le roman également, parce que c'est une critique aussi d'une société bourgeoise. Là où la pièce de théâtre en elle-même, elle est beaucoup plus aimable. Or, justement, la scène pivot, qui est la scène où le père d'Armand Duval vient demander à Marguerite Gauthier de quitter Armand pour que la probité demeure sur la famille Duval, c'est celle de la pièce de théâtre qui est conservée, soit celle où le père d'Armand Duval est plutôt un bourgeois qui, au final, lui-même va être séduit par la générosité et par la bonté d'esprit de Marguerite. Ça, d'une part.
C'est une centrale de l'opéra, hein, par ailleurs, du livret de l'opéra.
Oui, oui, mais Nozicel et Emrégente partent des, voilà, se basant, là, je parle vraiment roman, pièce de théâtre. Mm-hmm. Et de la même façon, aussi, à la fin, il y a quand même cette scène qui est celle aussi de, même si Marguerite Gauthier meurt seule, Eh bien, elle a à la fois en réminiscence dans ses rêves la présence d'Armand Duval qui est là. Et là, c'est normalement la fin de la pièce de théâtre où Armand est là pour la mort de Marguerite. Donc on a quand même une femme qui, la vision d'une femme qui à la fois est un peu régénère sa vertu en faisant en donnant sa vie, en acceptant de terminer sa relation avec Armand, mais qui à la fois est complètement aliénée aussi à son statut. Enfin, au final, les rôles chacun demeure à sa place.
Donc, du coup, plutôt bonne idée de monter ce spectacle.
Plutôt. En fait,
ce texte, en tout cas, de partir de ces textes, pour vous, c'était ma question un peu initiale.
Oui, alors en fait, c'est vraiment eu un montage, moi je trouve, qui est extrêmement fin et intelligent et qui se déroule comme ça dans une forme de beauté pure. C'est un objet extrêmement beau dans sa pureté, formellement et esthétiquement.
Ce qui est déjà pas mal. Alors, Lucille, comment vous, qui détestez la Traviata et qui avait l'air donc d'adorer...
Non, je déteste pas du tout la Traviata.
Ah, c'est quoi que vous détestez? Ah non, c'est Carmen, que... pardon.
Oui,
pardon.
Rien à voir.
Bon, ouais, bon d'accord, on a fait beaucoup d'émissions ensemble. Mais et par contre, vous avez l'air de ne pas partager l'avis de René
non,
sur
pas du tout,
Alexandre Dumas.
Parce que moi, je trouve que c'est un très beau roman. Et en effet, c'est quand même assez résolument le roman qui prime dans l'adaptation. Parce que tout simplement, pour décrire un petit peu aussi ce qui se passe sur la scène, quand on entre dans la salle, on est face à un rideau de tulle rouge dont derrière on devine, et c'est ce qui va commencer la pièce, une sorte d'orgie. Tous les acteurs sont sur scène quasiment tout le temps, donc là au début ils sont nus, ils ne vont faire que s'habiller au fur et à mesure de la pièce quasiment, à part l'actrice principale. Et il y a une grande sculpture de phallus très brillante en fond de scène, deux canapés rouges un peu capitonnés, tout ça donne une impression de porno chic. Alors moi je suis rentrée, j'ai eu extrêmement peur, là pour le coup je me suis dit ça c'est pas possible, ça va pas le faire. Et en fait c'est étonnant, c'est une à mon avis des fausse piste que donne le spectacle sciemment. Moi, c'est un spectacle qui, pendant, disons, la première heure, m'a complètement égarée. Je ne savais pas du tout ce que j'en pensais. Je ne comprenais pas ce qu'on me proposait. Les petites citations de la Traviata, l'opéra, je ne les comprenais pas. En général, l'utilisation de la musique. La diction qui est extrêmement hiératique, à part pour Marie-Sophie Ferdan, donc, qui interprète la Dame aux Camélias, extrêmement étrange, très difficile à comprendre. Il y a une voix off, voilà pourquoi je parlais d'adaptation du roman, qui est très présente, qui dure quasiment, je sais pas, il y a 20 minutes de voix off, seule, qui est magnifiquement dite. Je n'ai pas retrouvé le nom de l'acteur qui l'a dit.
Oui,
il n'est pas dans le générique. Et je pense que c'est le plus beau du spectacle. Et en l'occurrence, c'est un roman qui commence par la mise en scène de ce qu'on va voir. C'est-à-dire que le début de la Dame aux Camélias, c'est un narrateur masculin qui a fréquenté Marguerite Gauthier, qui se rend aux enchères après la mort de la courtisane et qui... alors même qu'il en fait partie, dénonce le voyeurisme extrêmement malsain des personnes autour de lui. Et ça met la salle dans cet état totalement paradoxal, mi-voyeur, mi-culpabilisé, de voir la mise à mort de cette Dame aux Camélias. Je trouve que vraiment c'est un spectacle qui s'en sort très bien, et y compris parce que justement c'est pas la Traviata, c'est un spectacle totalement anti-romantique qui fait de la Dame aux Camélias un roman sur l'économie de cette époque-là, sur ce que l'économie faisait aux femmes de la mi-19e siècle. Et de ce point de vue, du point de vue politique, de ce que ça raconte de la société et du coup évidemment de la nôtre, sans passer encore une fois par la question parce que j'ai beaucoup lu ça, de la pornographie, à mon avis c'est pas la question, et passionnant. Enfin moi ça m'a vraiment passionné du point de vue politique.
Alors Caroline Châtelet prend beaucoup de notes pour répondre peut-être et prolonger.
Oui, alors c'est vrai que vous disiez la question de la pornographie, quand on lit des articles actuellement sur la Traviata, on entend beaucoup ça. Sur la Dame aux Camélias. C'est vrai que j'ai l'impression aussi que le dossier de presse qui nous a été donné aussi, qui est extrêmement fourni, induit cette lecture-là, puisqu'il y a beaucoup de textes.
C'est un peu le problème de certains papiers, vous savez, qui recopient les dossiers de presse.
Mais, ou en tout cas, tout à coup, ça va induire la lecture.
Qui sont imprégnés, allez, on va dire ça gentiment.
Voilà. Mais c'est présent vrai que... sur scène, c'est un leurre. C'est donné c'est intéressant.
Et en fait, tout comme vous, moi, j'ai pas trouvé que c'était la question de la pornographie, et j'ai pas non plus trouvé que c'était la question de l'argent. En fait, pour moi, c'est vraiment un spectacle où on a... une histoire, on a des personnages qui sont dans un monde de la jouissance. Vous évoquiez le terme d'orgie, mais c'est quelque chose qui est absolument sans pornographie. C'est une sorte de sensualité perpétuelle et qui s'étire avec une douceur comme ça. Vous évoquiez cette première scène où les corps se déplacent pendant que le narrateur parle et que la salle est plongée dans, enfin, la scène est plongée dans une semi-pénombre. C'est quelque chose d'une beauté comme ça et d'une lenteur, d'une langueur. Mais c'est juste, voilà, de l'érotisme, de la sensualité. Et c'est un monde qui est complètement fermé sur lui-même, sur la satisfaction de ses désirs. Et tout ce temps s'étire comme ça dans un même mouvement. Et ce mouvement-là, c'est aussi le mouvement de la vie de Marguerite Gauthier.
René Solis.
Alors, je me suis demandé qu'est-ce qu'il avait voulu faire, effectivement. Et il y a cette question des corps qui est quand même très intéressante. Et je crois que la question qu'il a essayé de traiter et qui, moi, ce qui m'a intéressé dans son spectacle, parce que je ne vais pas dire que des choses négatives, donc j'ai été sensible à quelque chose, c'est cette question de comment donner corps à cette histoire aujourd'hui, c'est-à-dire à cette histoire de prostitution du 19e siècle. Et la réponse qu'il donne, effectivement, moi, m'a plutôt intéressé et séduit, en tout cas au début du spectacle, dans la première demi-heure, on va dire, parce que je trouve que cette question des corps, de la nudité, est effectivement plutôt assez réussie. Il y a quelque chose là d'un mouvement collectif, d'une orgie douce, effectivement, qui n'est pas directement pornographique, si on veut. Alors oui, on peut parler de douceur, d'érotisme. En tout cas, il se passe à ce moment-là entre les acteurs sur scène. Il y a beaucoup de tableaux de groupe et de scènes sur les canapés, d'étreintes qui se font, qui se défont, qui sont tout à fait dans une sorte de lenteur, de mouvement chorégraphié. Et ça, c'est plutôt extrêmement réussi. En revanche, cette histoire du phallus sur scène, je suis pas sûr que le côté extrêmement signifiant de cet objet soit si nécessaire que ça. On a compris quand même. Alors, Arthur Nocicel dit que ce qui l'a intéressé, c'est le thème de la prostitution, c'est le rapport entre cette bourgeoisie du 19e siècle, à la fois très moraliste et en même temps pour qui la prostitution est quelque chose de totalement normal, de totalement accepté. Donc c'est juste, il faut pas que les deux mondes, en fait les deux mondes se mélangent et totalement. Mais et il dit qu'il est très sensible à la dimension économique de ça. Moi je dois dire que dans le spectacle, cette dimension-là, je l'ai pas du tout voulu. Les rapports sociaux, je les ai pas vus, je les ai pas entendus.
Lucie, comment sur cette question?
Oui, en fait, je vois très bien ce que vous voulez dire, parce qu'en effet, je pense que c'est pas une question de rapport de classe. Les rapports de force, ils jouent à un autre endroit, qui sont pas, à mon avis, ni les rapports de classe dans une interprétation marxiste, ni une interprétation romantique, mais une sorte d'autre voie. Et c'est ça que j'ai trouvé beau, parce que c'est très fin, qui est, à mon avis, à chercher du côté de l'esthétique, pour le coup, de la tragédie. C'est-à-dire qu'il fait très évidemment, à mon avis, de la comédienne, du coup, de Marie-Sophie Ferdan, alias la Dame aux Camélias, une vraie figure tragique. D'ailleurs, elle a une robe qui est une robe grecque, enfin de tragédienne grecque, on ne peut plus classique, et il met à nu absolument tout leur rapport de force, juste pour décrire une scène, la femme, et d'ailleurs c'est deux scènes parce que c'est exactement la même, la fameuse scène de la déclaration d'amour d'Armand. Ils sont complètement à l'opposé de la scène qui est totalement ouverte, chacun sur un grand canapé, il n'y a quasiment pas d'étreinte à part à la fin, mais c'est une étreinte qui est totalement hiératique, totalement chorégraphique. Et c'est exactement la même chose à la fameuse scène cruciale de la rencontre avec le père d'Armand. C'est la même scène qui se joue. Et là, pour moi, c'était du Racine. Enfin, j'avais vraiment l'impression de voir une belle tragédie grecque bien mise en scène et qui déplaçait totalement les rapports de force entre ces personnages-là, ni sur le côté romantique, encore une fois, ni sur le côté simplement réaliste, économique du début de la littérature industrielle. Et ça, vraiment, pour moi, c'est une réussite. Ça, après, il y a plein d'autres problèmes. On
n'a
pas parlé de la vidéo. Il y a plein de vidéos. On comprend pas à quoi ça sert, à mon avis. Il y a plein de musique aussi qui parasite un peu le tout. C'est très, très riche, hein, comme mise en scène.
Mais le temps n'est pas élastique. Oui, non, mais c'était une réponse à votre petit salon. Peut-on encore monter Racine? Donc oui, avec Dima. Ah, c'est voilà. Ça. C'est ça qui vous travaillez sans doute. Réponse à la réponse. Et oui, puis Caroline ensuite. René Solis, d'abord.
Oui, donc moi, justement, ce qui me pose problème, c'est très précisément ce dont vous venez de parler. C'est en fait ce que j'appellerais le grand écart entre la tragédie, c'est-à-dire la volonté d'en faire une figure tragique et de lui donner la stature de ce qu'elle a, naturellement, Marie-Sophie Ferdinand, de la tragédienne. Hein, c'est la tragédienne qui joue la tragédie. Et en même temps, c'est le mélodrame qui se déroule tout autour. Et je trouve qu'il y a là quelque chose dans ce grand écart, quelque chose qui justement ne fonctionne pas. C'est-à-dire que c'est comme s'il était tiraillé entre deux tentatives et deux désirs, et qu'en fait, il n'en résout aucune. Et ça se traduit, je trouve, dans la direction de jeu, où on est tout le temps tiraillé, là aussi, entre quelque chose qui est la grande déclamation, la tension tragique, et puis la distanciation, voire et on a l'impression qu'on ne sait jamais exactement sur quel pied danser.
Moi, je vois une dialectique,
Moi, cette dialectique-là, je trouve que finalement, à mon sens, elle finit par déboucher sur du vide.
Elle n'opère pas, pour vous. Allez, Caroline Châtelet, pour finir cette séquence.
Oui. Moi, je vous rejoins, René Solis, juste une précision. En fait, la sculpture que vous évoquez, c'est un agrandissement de la sculpture qui est présente dans le film Orange Mécanique. Et donc, en fait, c'est vrai que ça rejoint ce que vous disiez, René Solis, qui était qu'est-ce qu'il a voulu faire. Eh bien, c'est vrai que pour moi, ce qu'il a voulu faire, c'est un bel objet, mais qui évacue complètement la question des rapports sociaux, et que la lenteur et la mélancolie et l'abandon des corps, et à la fois la puissance de la sensualité, tout ça se déroule dans le même mouvement que les rapports sociaux et que l'écrasement social de cette femme, et donc ça pasteurise complètement au final justement la question de la violence sociale et de à quel point aussi cette femme va être écrasée par une machine, quoi, par la société en fait, et à quel point elle ne pourra pas s'en sortir.
Bon, elle n'est pas du tout d'accord, Lucille
Comeau. J'ai plus le temps, mais...
Mais vraiment, d'accord.
Par exemple, le décor, pour vous décrire, il y a quand même un moment où le plafond, qui est une sorte de capitonnage rouge magnifique, descend jusqu'à ce que les personnages puissent à peine être debout en dessous au moment le plus crucial, justement, de l'humiliation publique de Marguerite, qui, à mon avis, est la bonne solution pour montrer sans simplisme la question des rapports sociaux dans ce roman qui est hyper complexe, encore une fois, et magnifique.
Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur cette Dame aux camélias d'après Alexandre Dumas, mise en scène Arthur Nosiciel jusqu'au 21 octobre au Gémeaux, scène nationale de Sceaux. Et puis donc, je l'ai dit, la longue tournée, 28-29 novembre à la Comédie de Valence, en décembre, le 4 et le 5 à la Comédie de Reims, du 11 au 13 à la Comédie de Clermont-Ferrand, et puis après en passant en janvier, 16 et 17 janvier au Parvis à Tarbes, 22-25 janvier ce sera au Célestin à Lyon, 31 janvier, 1er février, Théâtre National de Nice, et puis en mars, Vidy-Lausanne du 13 au 15 mars, Comédie de Caen les 20 et 21, Théâtre National de Strasbourg du 28 mars au 4 avril, 18 et 19 avril, scène nationale de Cergy-Pontoise, l'apostrophe, et enfin 10-11 mai au Tandem Arras, 17 et 18 mai, La Criée à Marseille. Bon, beaucoup d'occasions pour aller explorer cette pièce d'Dame aux camélias. À suivre dans la dispute western, c'était à Montreuil, le coup de cœur de Caroline Châtelet et un petit salon de Lucille Comeau.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite donc de cette dispute consacrée ce soir au spectacle vivant, nous rendant au nouveau théâtre de Montreuil qui résonne toujours davantage des musiques et des films qu'affectionne particulièrement son directeur Mathieu Bauer, metteur en scène, multi-instrumentiste, c'est une fois encore le cas avec cette nouvelle création sobrement et hardiment aussi intitulée Western qui revisite La Chevauchée d'Ebany, un film d'André de Tott sorti en 1959, on va découvrir dans la neige du Wyoming comment la loi du plus fort en l'absence du shérif est une question, oui, de rapport de force. Mais les rapports de force, ils peuvent, entre les habitants, ils vont singulièrement changer avec l'arrivée d'une bande hors la loi qui eux-mêmes sont pourchassés par la cavalerie.
Thank you.
Western. Ben voilà, c'était le générique. C'est joué, évidemment, en direct sur le plateau du nouveau théâtre de Montreuil pour ce nouveau spectacle de Mathieu Bauer. Et c'est Lucille Como qui va commencer à nous en parler.
Oui, c'est un spectacle qui m'a laissé une impression un peu de déception, de choses pas vraiment finies. Et pourtant, je suis toujours assez curieuse de l'adaptation de films au théâtre, surtout dans le cas d'un western. Et puis avec le titre, on a bien envie de voir ça. Donc vous l'avez dit, Arnaud, c'est un film qui est un film en noir et blanc, un western hivernal. Ça commence dans un paysage totalement blanc. Et c'est en effet une rivalité entre deux hommes, et c'est ça qu'on voit aussi sur scène, qui se transforme en... une sorte de huis clos avec ces fameux bandits qui prennent en otage en fait la population de tout un campement et qui en effet reconfigurent totalement les rapports de force. Alors sur scène, on a l'évocation un peu par le bricolage, c'est totalement fait exprès de ce que c'est que ce paysage du Wyoming enneigé. Donc il y a plein de fausses neiges un peu partout. Il y a un intérieur qui est figuré de manière assez habile avec juste des fausses cloisons, des petites clochettes. On entre, on sort par des portes. D'ailleurs, la clochette, elle est aussi dans le film. Il y a tout un jeu avec ça. Il y a un piano, il y a beaucoup d'instruments de musique. On les entendait. C'est la musique du film, hein, d'ailleurs, qui est réarrangée et qui est très importante dans le film. C'est une sorte de marche absolument funèbre qui revient en permanence. Ça, c'est assez bien fait. Moi, mon problème, en fait, c'est forcément, hein, dans ces cas-là, c'est où se situe le point de vue sur la matière, sur le matériau de base. C'est sur le western. En fait, on voit bien qu'il essaye de jouer quelque chose de la distance, puisque dès l'arrivée du premier personnage, et puis ça après ils arrivent les uns après les autres, on voit qu'ils ont tous à la bandoulière, bon, c'est assez habile parce qu'on dirait un flingue de cow-boy, en fait ils ont une sorte de magnétophone personnel, voilà, de mégaphone personnel. Voilà. Et donc du coup le son nous arrive avec la médiation de cette espèce de souffle qui fait un petit peu.
Ils ont un micro qui tient à la main.
Tout à fait. Et du coup parfois on entend des souffles, parfois des larcènes, parce que les micros, c'est plus ou moins fait exprès. On voit bien qu'il veut mettre quelque chose à distance de la matière filmique. On ne sait pas exactement pourquoi. Dans un premier temps, je me suis dit c'est pour faire rire. Il y a une piste de l'humour. En fait, ça ne fait pas beaucoup rire. Il y a quelques petits moments un peu cocasses, quand par exemple les cow-boys utilisent des petits tabourets en bois pour faire les chevaux et font hi-ha avec des foraines. Mais on ne sait pas exactement ce qu'on nous dit de ce film, que par ailleurs j'ai regardé un peu rapidement, mais que j'ai regardé après, et qui est passionnant. Qui est passionnant sur ce que ça veut dire, sur ce que ça dit du genre, parce que très cruel, très drôle, très, très dur, vraiment très dur. Voilà, je sais pas trop quoi dire après la description, parce que je ne sais pas bien ce qu'on me donne à voir.
Alors, est-ce que vous savez, Caroline Châtelet? Alors, est-ce que vous avez des pistes?
Moi, je pense que la piste principale, c'est justement de dialoguer avec ce film et à travers ce film, de dialoguer avec le genre même du western. Et ça, ça nous est dit d'emblée par le fait de renommer le spectacle, puisque le film s'intitule La chevauchée des bannis et Mathieu Bauer donc, nomme ça western. Donc déjà, il nous rappelle l'écart qui est induit par le changement de médium. Comme vous le dites, il y a une mise à distance. Comme le théâtre ne peut pas rivaliser avec la technologie et l'industrie du cinéma, plutôt que de prétendre imiter ou reproduire le film d'André de Tote, il assume l'artifice et le jeu perpétuel avec les conventions théâtrales. Donc là où le film, comme vous le dites, il est magnifique. Donc c'est un film noir et blanc, tourné dans la neige, vraiment dans des conditions affreuses. Eh bien, tourné dans des décors réels avec un jeu très naturaliste, Mathieu Bauer, lui, substitue les artifices et les conventions théâtrales. La mise en scène et le jeu sont stylisés et tout est fait pour nous signaler l'éloignement géographique, temporel, avec ce qui se joue. Donc voilà pourquoi au village de maisons de bois, on a une armature en bois pour une seule maison. Au saloon et au lieu de beuverie, il y a juste le piano, quelques chaises et une table. Et les chevaux sont remplacés par des tabourets enrobés de fausses neiges. Et puis aussi, ce que fait Mathieu Bauer, donc, c'est qu'il dialogue avec le genre même du western. Donc en fait, il nous ramène comme ça tous les signes extérieurs, mais qui seraient ramenés à leur plus grande simplicité. Ce serait comme un concentré au sens chimique des attributs du western, avec les décors, avec les chevaux, avec juste quelques figures comme ça. Et de la même façon, en fait, c'est ça, l'amplification des personnages par les micros, ça contraint à la fois leur jeu, donc ça rajoute de la distanciation, ça empêche l'identification, et ça nous dit aussi la facticité de ce monde-là.
Bon. J'interviendrai plus tard. René Solis, qu'on n'a pas encore entendu sur Western de Mathieu Bauer.
On est au moins d'accord sur une chose, c'est sur l'extraordinaire qualité de la matière de départ de ce film et de ce livre, ce The Day of the Outlaw, on peut donner le titre en anglais.
Avec votre accent en plus.
Oui.
Extraordinaire.
moi je me disais en regardant le spectacle, quelle histoire formidable quand même. Et de ce point de vue-là, on l'entend très bien. Donc il y a quelque chose qui est passionnant, qui est de l'ordre, alors pour le coup vraiment de la tragédie, effectivement. Et je me disais, mais bien sûr et à raison, on dit que les séries d'aujourd'hui sont la tragédie du 21e siècle. Mais enfin, avant il y a eu quand même le western, et en voyant un western, à travers ce spectacle, moi j'ai aussi vu, du coup, regarder le film après, je me suis dit, mais c'est quand même, qu'est-ce que c'est génial, c'est incroyable, la tension, l'intelligence, la complexité des rapports sociaux, justement, de tout ce qui se joue, de comment ça bifurque, de quoi, enfin, c'est inouï, des rapports hommes-femmes, des rapports entre hommes plus âgés, hommes plus jeunes, enfin, c'est totalement génial. Bon, donc ça, moi j'étais extrêmement content d'entendre ça, et d'ailleurs, dans la salle, le soir où j'étais, il y avait beaucoup de collégiens et de lycéens, donc un public potentiellement assez dissipé, et ils étaient visiblement scotchés par l'histoire. Et voilà, donc ça, on l'entend. Après, moi, la question que je me suis posée, c'est surtout sur son rapport à la musique, mais qui est toujours la question sur Mathieu Bauer. Donc on a toujours un peu l'impression qu'il fait du théâtre et qu'en même temps il regrette de pas avoir fait plus de musique ou quelque chose. Il y a une articulation entre le théâtre et la musique qui dans ce spectacle là j'ai regretté qu'il n'y ait pas plus de musique, en fait. Je trouvais que la partie la plus intéressante, la plus réussie et la plus originale, c'était plutôt Sylvain Cartini. C'était plutôt ce côté-là qui, moi, m'intéressait. Et je me disais, mais il devrait aller au bout. Et avec ça, il a effectivement un formidable livret d'opéra. Et pourquoi est-ce qu'il tenterait pas le pari d'aller au bout de son théâtre musical et de faire carrément, de commander à son musicien un opéra contemporain? C'est ça qui m'intéresserait, en fait.
Ah, c'est pas mal comme idée, parce que effectivement, en voyant ce spectacle, je voyais bien ce qu'il voulait faire. Hein. C'est assez clair, vous l'avez très bien dit. Mathieu Bauer, donc prendre ce genre-là et voir qu'est-ce qu'on en fait au théâtre, qu'est-ce que ça peut produire dans une scène, sur une scène de théâtre. Et je ne suis pas sûr qu'il ait toutes les réponses idoines, en fait. Donc cette proposition émise par René Solis me paraît une piste tout à fait intéressante, parce que si on prend la question du micro à la main et du haut-parleur en bandoulière, ça ne marche pas. Enfin, il y a quand même quelque chose la distanciation, on n'a quand même pas besoin de ça pour voir qu'on n'est pas dans le Wyoming en plein hiver. On est quand même au théâtre et on joue avec ça. Alors il y a un côté, je me suis dit, peut-être c'est un côté gag comme Lucille Como, mais c'est pas le cas, c'est plutôt un côté gênant. Et si on veut faire les effets de Larsen, on peut les faire avec un micro-cravate qu'on enlèvera deux secondes pour faire un effet de Larsen de la même façon. Parce que le son soit sur les personnes elles-mêmes, c'est très bien. Mais j'ai eu, moi, une vraie interrogation à peu près constante sur la question du jeu, enfin de la direction d'acteur dans ce spectacle-là. Alors je me suis dit, alors peut-être qu'en fait, ce qu'il essaye de retrouver, c'est la VF d'époque. Mais ça aussi, c'est un peu court comme réponse. Vous avez ressenti ça, Lucille?
Oui, exactement. En fait, de la même manière que je me suis dit, c'est peut-être pour être drôle, je me suis dit, c'est ça. Essayer de retrouver la VF. Et il faut quand même dire qu'il est dans un rapport, vous le disiez, réinterroger les codes de western, pas tellement, parce qu'il est dans un rapport d'imitation, notamment au niveau du jeu. Enfin, c'est très, très frappant. Les dialogues
c'est
sont quasiment les mêmes.
Que
voilà, il y a un côté fasciné, à mon avis, qui bloque un peu la possibilité d'interprétation.
Ce qui n'était pas le cas pour Shock Corridor, hein, qui est présenté en même temps au même programme, je le dirais tout à l'heure, où là, il y avait quelque chose qui était beaucoup plus juste dans l'adaptation.
Oui, parce que là, il n'y a pas vraiment d'interprétation. Si on regarde, par exemple, tout simplement le premier couple qui entre en scène, qui est aussi le couple qui entre en scène dans le film, il y a un grand assez beau et puis un petit plus court. Et là, de fait, il reproduit un petit peu les mêmes types de physique, il reproduit le même ton. Par exemple, la romance, entre guillemets, entre le héros et la femme de son adversaire. Tout ça est reproduit un peu tel quel quand on regarde le début du film, et je ne vois pas l'intérêt, en fait, de l'imitation, si ce n'est éventuellement la parodie, mais je ne crois pas que ce soit
ça. Je ne crois pas que ce soit le cas. Caroline Châtelet.
Alors, en même temps, Pour les personnes ayant vu le film, le spectacle ne reproduit pas tout le temps le film. Et par exemple, si on prend, il y a un moment dans le film, dans le spectacle, donc où il y a une scène de danse, où les hors-la-loi sont tout à coup finalement autorisés à danser avec les femmes. Et il faut savoir qu'en fait, pendant le tournage, les femmes ne savaient pas que, en fait, elles allaient être violentées par les hommes. André de Tott a juste briefé les acteurs masculins sur le fait qu'ils allaient faire danser les femmes de façon extrêmement violente et que l'une d'elles serait embrassée de force. Donc, voilà, tout ça s'est vraiment passé. Les comédiennes ont été traumatisées. Et dans le film, ça crée une scène assez violente et gênante. Et donc là, dans le spectacle, c'est une scène qui est extrêmement stylisée et où, pour la première fois, les comédiens parlent, mais ils ne parlent pas par le micro, à l'aide de leur micro, et où il y a une autre musique à côté. Après, à côté de ça, moi, je pense que c'est un exercice de style qui a ses limites.
Ouais, mais je pense que cette scène de danse, pour le coup, c'était une des plus réussies, je trouve, du spectacle où il se passe vraiment quelque chose. Mais bon, il faut surtout dire qu'André de Tott est grand, c'est pas Bertrand Tavernier qui nous écoute souvent qui dira le contraire, parce que c'est un de ses cinéastes fétiches. Je serais curieux de savoir ce que Bertrand Tavernier pense
de ce
Garnier spectacle.
A consacré, oui. Voilà, un livre à ce film, donc c'est quand même, voilà, c'est pas n'importe quoi.
Ah non, mais c'est pas n'importe quel film, mais il y en a beaucoup, beaucoup de très bons westerns. Et manque le sadisme quand même, parce que même cette scène,
justement, c'est une manière d'aplanir totalement les rapports de force qui sont, c'est un moment clé du film.
Parce que le film est absolument terrible.
Il n'y a aucune cruauté dans la pièce, alors que le film est
un tout petit peu à ce moment de scène de danse. Bon. Mais bon, pas assez pour le Zilcomo. Allez voir par vous-même Western, d'après ce film d'André Le Tot, qu'on vous conseille évidemment de voir, La Chevauchée des Bannis. Le spectacle est mis en scène par Mathieu Bauer et on peut le voir jusqu'au 26 octobre dans un diptyque. Une nuit américaine, ce nouveau théâtre de Montreuil, bien sûr. On peut voir ce spectacle au cours d'une même soirée que Choc Corridor, donc autre adaptation de Bauer pour le plateau, à partir du film de Samuel Fuller, cette fois, qui n'est pas non plus rien du tout sur la violence et les rapports et la paranoïa de l'Amérique des années 60. C'est aussi assez violent. Et puis Western, on pourra le voir à la scène nationale de Sète. Une nuit américaine sera le 9 novembre. Au théâtre du Gymnase, il y aura plusieurs dates Western et puis nuit américaine. Au théâtre de la Croix-Rousse à Lyon en janvier. À la scène nationale de Belfort en février. Et enfin à la Comédie de Clermont-Ferrand. Toujours sous la version nuit américaine, 12 et 13 mars. Le temps file, et c'est le temps du coup de cœur, le coup de cœur de Caroline Châtelet ce soir pour Campana du Cirque Trottola, dont on a déjà parlé dans cette dispute, le Cirque Trottola. C'est une tournée jusqu'au 4 juin 2019, donc là aussi, où que vous soyez, vous pouvez être concerné par ce coup de cœur. Caroline, pourquoi ce coup de cœur ?
Alors, donc Campana, nouveau spectacle du Cirque Trottola, pour dire en deux mots, c'est une compagnie qui est portée par les circassiens Titoun et Bonaventure Gacon. Il est installé à Die dans la Drôme. C'est dans ce qui constitue à la fois leur lieu de travail et de vie qu'ils ont répété et créé Campana. Si je précise cela, c'est parce que pouvoir répéter en un seul et même endroit, ça participe aussi de l'atmosphère particulière de leur spectacle, de la puissance d'évocation de leurs propositions et de la manière aussi de concevoir leur art dans un rapport qui est vraiment lié au quotidien. Donc Campana, ça désigne la cloche en italien et cet objet traverse le spectacle. Il y a l'accessoire introductif du Monsieur Loyal, il y a les multiples cloches qui parsèment la création sonore, qui est composée et interprétée par Thomas Barrière et Bastien Pellinck. Les sons deviennent ainsi un motif sonore récurrent qui est censé vriller, moduler et détourner. Et puis il va y avoir la cloche ultime, mais de celle-là, je ne vais rien vous dire. Donc dans un monde qui est plongé un peu dans la semi-pénombre, Bonaventure Gacon et Titoun vont enchaîner les numéros, ils vont passer du trapèze aux séquences de clown ou de portée. Qu'ils soient dans les airs ou sous terre, leurs gestes et leurs paroles disent l'obsession et l'angoisse face au temps qui passe. C'est un spectacle très mélancolique qui est hanté par la mort, l'impermanence et traversé aussi d'une pulsion de vie. L'une des qualités aussi de Campana, c'est sa capacité à renvoyer à d'autres œuvres et à d'autres artistes. Bon, je ne vous parlerai pas d'Andrei Roublev, qui est le film réalisé par Andrei Tarkovsky, qui raconte comment un village renaît de ses cendres par la fonte d'une nouvelle cloche. Mais je vais très vite vous parler de l'Angélus, qui a été peint en 1878 par Jean-François Millet. Parce que dans ce tableau, Millet, il représente un couple de paysans dans un champ en train de prier. Millet, il n'était pas pratiquant, il dit l'avoir peint en pensant à sa grand-mère qui, lorsqu'elle entendait la cloche, arrêtait de travailler pour prier. Et cette peinture, elle a obsédé Salvador Dali. L'artiste, il y voyait intuitivement plus qu'une simple prière au champ. Or, il faut savoir qu'en 63, il y a une analyse qui a révélé que les paysans se recueillaient originellement devant un cercueil d'enfant. Donc comme l'Angélus, en fait, Campana vient de l'enfance. Il porte la fragilité inquiète et une forme d'innocence traversée d'une angoisse en sourdine. C'est un spectacle qui dialogue avec la disparition et la mort, dans un registre non pas sacré mais quotidien.
Campana, qu'on pourra voir alors les prochaines dates, c'est au 104, du 23 novembre au 15 décembre. Donc ça c'est une belle programmation pour le Cirque Trottola. Et puis en tournée, ce Campana passera en mois de février du côté d'Istres au Festival Les Élancés, à 7 à nouveau, Théâtre Molière, toujours février. Et puis en mars à Elbeuf, Festival Spring cette fois. Du 23 au 27 mars à Ville-Dieu-les-Poils, c'est toujours avec le Festival Spring. Et puis au Mans du 3 au 10 mai, au Quinconce. Et puis 29, 30 mai, 3 et 4 juin à Clermont-l'Hérault, au Sillon. Et la dernière séquence de cette dispute spectacle vivant, les habitués ont reconnu l'entrée dans le petit salon de Lucille Comeau avec ce soir un théâtre d'art d'intérêt privé, Lucille.
Et oui, c'est ainsi que se présente la Scala, nouveau théâtre si 13 boulevard de Strasbourg, dans le 10e arrondissement parisien, qui a ouvert ses portes le 11 septembre dernier, dans l'ancien quartier roi du boulevard, à quelques pas du théâtre de la Porte Saint-Martin et en face du théâtre Antoine. Construit sur les ruines d'un ancien théâtre de music-hall, devenu cinéma porno, puis lieu de culte, la Scala a affolé la rentrée culturelle et enthousiasmé nombre de journalistes qui y voient une excitante nouveauté dans le paysage théâtral parisien. Le Monde magazine dressait ainsi le portrait quasi à l'eau de rose du couple à l'origine de cet événement, Mélanie et Frédéric Biessi, elle, associée gérante d'une société de capital investissement, lui, producteur et tourneur privé de spectacles qui, à force d'acharnement, d'un investissement personnel considérable, mais aussi d'aides publiques émanant de diverses collectivités territoriales, sont parvenus à ouvrir cette grande cage modulable pouvant accueillir jusqu'à 550 spectateurs. De fait, économiquement, c'est un sacré pari. La Scala repose entièrement sur des fonds privés, quand son grand frère, le Théâtre du Rond-Point, à qui elle est fréquemment comparée, compte 35% de fonds publics dans son budget. Un animal bizarre, donc, dans le paysage en profonde mutation du spectacle vivant. Dans un nouveau numéro de la revue Le Crieur, paru aujourd'hui même, le journaliste Antoine Péqueur aborde le cas Scala dans un article intitulé « Le capitalisme culturel à l'assaut du spectacle vivant ». Il en fait un parangon de la nouvelle porosité entre public et privé et interroge à ce titre Pierre-Yves Lenoir, passé du théâtre de l'Odéon au boulevard de Strasbourg. Il définit son projet comme « un théâtre privé avec une programmation publique », je cite, « qui assurerait aussi la création de spectacles avec un modèle économique inédit, très peu de salariés, un restaurant propre et le projet de vendre au maximum les spectacles produits sur place ». C'est un pari parce qu'aujourd'hui les théâtres privés qui créent et financent les spectacles sont peu nombreux quand ils ne récupèrent pas des spectacles déjà financés par le public. C'est le cas du théâtre de la Porte Saint-Martin par exemple quand il fait jouer du Joël Pommerat, largement financé par le théâtre conventionné. Alors justement, quid de la programmation de la Scala. Elle se veut éclectique, regardant aussi bien du côté du théâtre que de la danse, du cirque et des arts plastiques. Le théâtre a ouvert avec une création du même nom signée Johan Bourgeois, danseur chorégraphe découvert dans le public. Suit une reprise d'un spectacle de 2006 de Thomas Joly, produit par sa compagnie, subventionné. Puis une mise en scène d'un texte de Yasmine Areza, signé Frédéric Bélier-Garcia, directeur du Centre Dramatique National des Pays de la Loire et donc également subventionné. Frédéric Biessi présente sa programmation comme le fruit d'une vaste émulation collective. Il aurait invité des dizaines d'artistes à se rendre dans le lieu pour qu'il leur inspire de multiples projets. Pour certains, elle est un patchwork de théâtre privé à l'ancienne et de best-sellers du public. Pour d'autres, c'est une structure neuve, en marche avec une certaine idée de la culture, décomplexée et sortie des ornières du vieux débat privé-public qui n'aurait plus lieu d'être. Alors pour vous, de quoi cette Scala est-elle le signe ?
Ah oui, c'est comme ça. Quand vous dites structure en marche, est-ce qu'il faut l'entendre
Ah mais vous l'entendez comme vous voulez.
Comme une salle de spectacle qui serait à l'image de la présidence actuelle, Lucille Comeau. C'est bien ça, je fais du bruit avec mon micro.
Moi, c'est ça une pas hypothèse. Du tout,
c'est une hypothèse, d'accord, on a bien noté ce mot-là. René Solis. On parle de ce cas-là, mais évidemment, le débat et le papier formidable.
Alors, le papier d'Antoine Baker, j'ai lu moins attentivement que vous, Lucine, mais j'ai quand même regardé avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, parce que c'est une enquête très riche qui ouvre plein de pistes.
Plein.
Qui cite beaucoup d'autres exemples que la Scala.
Beaucoup.
Hein,
et beaucoup d'autres.
Dans la musique, tout à fait.
Il relève un phénomène qui a l'air effectivement d'être une tendance de fond, qui n'est pas une surprise, mais qu'il argumente et dont il donne beaucoup d'exemples, qui est qu'il y aurait d'un côté un désinvestissement du secteur public dans le théâtre vivant, et que à ce désinvestissement répondrait un investissement nouveau d'acteurs du privé, et surtout de nouveaux acteurs du privé qui est plus le système artisanal du théâtre privé, du théâtre commercial de boulevard à Paris tel qu'on l'a connu depuis des dizaines d'années, mais qui est carrément l'arrivée et l'irruption de très très gros opérateurs sur ce marché-là, et donc d'un modèle économique qu'ils essayent de créer, qui est un modèle vertical, c'est-à-dire qui prend en compte à la fois tout ce qui est les plateformes de vente de billetterie et tout ce qui est la commercialisation la production ou la commercialisation de spectacles, parce que le grand problème qui reste
la médiatisation
évidemment, mais le grand problème qui reste de tout ça, et d'ailleurs la programmation de la Scala, c'est très intéressant de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'ils font des grandes déclarations sur dépasser et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que où est-ce qu'ils puisent ? Ils puisent dans le vivier des créations qui ont été financées par l'argent public. Et donc, on est là face quand même alors je dirais pas une imposture, mais en tout cas une question qui n'est pas résolue. Je veux dire, dire que c'est une nouvelle époque qui s'ouvre et tout. Non, les théâtres privés ont toujours eu tendance, on trouve des dates d'exemple, à reprendre et à essayer de rentabiliser et de faire de l'argent avec des spectacles du public qui avait marché, etc. Mais on se rend compte donc qu'il y a un phénomène général, et les questions qu'il pose sont tout à fait passionnantes, parce que effectivement on se rend compte que ce désinvestissement du ministère de la Culture, c'est-à-dire cette baisse ou ce gel des crédits, cette stagnation, ce manque d'élan de politique en faveur de la création, débouche aujourd'hui sur quelque chose qui serait la nature hors du vide, et donc les deux grandes entreprises les plus grands, Bernard Arnault, Didier Pinault, s'intéressent au spectacle. Alors, ils s'intéressent plus au spectacle musical qu'au théâtre. Sur le théâtre, on peut se poser quelques questions sur l'intérêt pour eux réel de faire. Enfin, en tout cas, il y a un mouvement qui est enclenché, et le théâtre n'est pas à l'abri de ça complètement.
C'est François Pinault. Oui, Didier Pinault, c'est un autre. Caroline Châtelet.
Oui, alors pour revenir sur le cas de la Scala, donc vous avez présenté le projet, c'est vrai que concernant tous les articles de presse, enfin nombre d'articles de presse qui ont entouré l'inauguration de ce théâtre début septembre, moi j'ai été assez surprise par la bienveillance très onctueuse qui accompagnait l'ouverture d'un théâtre. En même temps, dans l'absolu, oui, c'est très bien d'avoir un théâtre qui ouvre, mais où justement, de la même façon, comme vous évoquiez, comme nous évoquions au sujet de la pornographie pour la Dame aux Camélias, où tout à coup, on reprend juste les discours qui nous sont donnés. Et là, on est quand même face à un théâtre, qui se déploie avec, comme vous le disiez, René Solis, de grandes déclarations, où tout, avec à la fois le storytelling, donc l'histoire du bâtiment, de son passé, on déroule les noms d'artistes, les différentes phases aussi de sa transformation, et tout ça connecté aussi avec le parcours et les origines et les aspirations des nouveaux propriétaires, donc le couple Biessy. Donc on est vraiment à la fois entre le storytelling et le marketing, et c'est comme si la grande majorité de nos confrères s'étaient laissés un peu berner ou avaient eux-mêmes prolongé ce discours-là. Voilà, sachant que, en même temps, c'est vrai que c'est hyper bien ficelé. Il y a Richard Piduzzi, qui était le scénographe de Patrice Chéreau, qui signe la scénographie intérieure. Il y a eu une couleur créée pour l'occasion qui est déposée. Le premier spectacle de Johan Bourgeois, qui artiste circassien venu du public, c'est un spectacle éponyme. Donc, on ne sait même plus, en fait, qui rend service à qui. Enfin, le spectacle de Johan Bourgeois s'intitulant Scala, et ensuite, il va continuer sa tournée dans nombre de théâtres publics en France. Donc, moi, ce qui m'a vraiment saisi, c'est cette opération marketing folle, pour lancer un projet.
Bah, on va dire qu'il y avait, il semble qu'il y avait beaucoup de sympathie pour ce théâtre. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller, d'aller à La Scala, mais peut-être deux, trois choses à dire sur ce projet pour revenir sur l'article dans
Le crieur,
mon Dieu, le crieur.
Pas oui, tellement le
non,
même.
Non, pas du tout. Non, non, mais je
la
sais
même
bien.
Orientation.
Le crieur, c'est les, sont les DSP, les PPP, les DSP, délégation de services publics, qui est une façon bien commode de voir la Gaîté Lyrique à Paris pour donner ce gros exemple-là, de lâcher l'affaire pour les municipalités, de se dire. On vous donne un cahier des charges qui est quand même assez facile à remplir, mais c'est de l'argent privé qui va prendre tous les risques et nous on s'en occupe plus. Je résume à grands traits. Et le PPP, le partenariat privé-public, qui est aussi une façon d'amener de l'argent dans les projets privés, alors que ça, ce qui est le cas pour La Scala, il y a des, tant mieux pour eux, des aides de la ville de Paris, de la région Île-de-France et peut-être d'autres structures. Je pense pas que l'État soit dans le financement de La Scala, mais on pourrait s'interroger effectivement sur le fait qu'un nouveau lieu privé puisse bénéficier de subsides publics. C'est parce qu'il y a un accord, j'imagine, sur le projet. Mais en tout cas, toutes ces questions-là, elles sont soulevées par ce cas précis de La Scala, Lucille Comeau.
Oui, puisque ça pose aussi comme question, et là pour le coup c'est presque d'ordre esthétique, c'est qu'est-ce que c'est un spectacle de public ? Parce que là on parle de spectacle type public ou spectacle type privé, mais je pense que c'est pas évident pour des gens qui vont pas tout le temps au théâtre comme nous. Et en effet, est-ce que ça remet pas à plat, là je me fais l'avocat du diable, mais est-ce que ça remet pas à plat dans le fond une distinction qui n'a plus lieu d'être, et tous les spectacles après tout sont au même niveau et on les joue dans divers endroits, et tant mieux s'ils sont le plus, enfin, qu'ils soient le plus joués possible.
Oui, mais c'est, enfin, il y a plus de diable, je crois, enfin, j'espère, dans ces questions. La question, c'est qui finance la création, qui repère les découvertes et qui ensuite profite de l'argent public et du travail de défrichage, de moins en moins bien fait. Voilà, la différence entre Faites l'amour avec un Belge et Dans la luge d'Arthur Schopenhauer, je pense qu'elle est évidente pour tout le monde. René Solis, cette question, Lucine, peut-être.
Oui, je lisais aussi qu'un des arguments de ceux qui défendent cette entrée du privé, ils ont des arguments vertueux en disant, mais regardez par exemple la diversité, le théâtre public, c'est un théâtre en fait qui est un théâtre nombriliste, qui est réservé à un petit nombre de gens, toujours les mêmes.
Et la nous, diversité en fait, des publics,
la diversité
vous voulez
dire, des publics, oui. Et c'est, en fait, c'est nous qui allons faire venir des publics différents. Or, je trouve que c'est un peu gonflé de dire ça, parce que et remplir un zénith avec avec du rap, c'est pas très compliqué. Faire venir 300 collégiens de Seine-Saint-Denis à Rabelais, à Montreuil ou à Seine-Saint-Denis, c'est quand même nettement plus risqué, plus difficile et plus intéressant si on parle de la diversité des publics.
Il faut voir quand même la politique tarifaire, hein, parce que là, je prenais un exemple, Arlequin, donc le spectacle de Thomas Joly, qui donc a déjà été beaucoup montré, c'est entre 20 et 34 euros à la Scala, c'est pas négligeable. Western, par exemple, à Montreuil, c'est entre 8 et 20 euros. Donc c'est pas exactement la même chose.
Caroline Châtelet, pour finir presque.
Oui, donc c'est vrai que vous avez évoqué quelque chose qui est présent dans l'article, c'est sur cette question des partenariats publics-privés. Et donc c'est vrai que concernant la diversité des œuvres proposées, quand on a tout à coup des municipalités qui décident de donner la gestion et la programmation de leur théâtre municipal tout à coup à des structures privées, on a là un dévoiement complet de ce qu'est une politique culturelle, en fait.
Oui, et puis là, on parle davantage de grands groupes, ce qui n'est pas le cas de La Scala. Là, on a vraiment un couple de particuliers et de privés.
Ça crée une émulation,
c'est dans cette ère-là.
Voilà, une tendance dans laquelle peut s'inscrire un projet comme La Scala.
Comment Havas, qui s'appelle plus Havas depuis longtemps, Vivendi et d'autres grands groupes, Fimalac, peuvent rentrer dans le spectacle vivant. On pourrait se dire quand même il y a une bonne chose, c'est que le théâtre, le spectacle vivant, dans toute son acception, a de beaux jours devant lui, parce qu'il ne se numérise pas pour l'instant. Et que ça y est, les gens ont toujours envie d'aller voir d'autres gens en vrai, faire des choses artistiques. Après, on les apprécie ou pas, mais ça, il y a des émissions pour en parler, notamment La Dispute. On verra demain qui sera ou pas nouveau ou nouvelle ministre de la Culture. Si changement il y a, parce que là, on ne s'arrisque plus à aucun pronostic concernant un remaniement qui, paraît-il, doit arriver peut-être demain. On continue, nous, l'émission. Pas de pronostic, mais un rappel de la question du jeu de vendredi soir avec Sarah Dion qui nous a rejoint et qui va nous dire de quoi il s'agissait. C'était quoi la question ?
De quel courant théâtral Ascanio Celestini se revendique-t-il ?
Ah oui, la réponse ?
Du théâtre récit.
Ce soir, nous faisons gagner des coffrets, des beaux coffrets. L'âge d'or du cinéma japonais, volume 2, c'est édité chez Carlotta. Et quelle est la question, Sarah ?
Nous demandons qui a réalisé le film Le goût du saké, sorti en 1978.
Ça, c'est, on va dire que c'est une question un peu facile, mais ruez-vous sur vos ordinateurs, téléphones intelligents, etc. pour répondre par courriel à cette question, avec donc votre réponse et puis les coordonnées postales, les vôtres, c'est mieux, pour qu'on puisse vous envoyer le cadeau. Tout ça à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel on peut réécouter cette émission et bien sûr s'abonner au podcast. Demain, rendez-vous à 19h pour une dispute consacrée à la musique. Nous serons en compagnie de Sophie Bourdet, Emmanuel Giuliani et Anna Segalevich. À notre programme, Orphée et Eurydice de Gluck. Direction Raphaël Pichon, mise en scène Aurélien Bory. C'est à l'Opéra Comique en ce moment. Méphistophélé d'Arrigo Boito, direction Daniel Rustioni, mise en scène La Furia del Boss à l'Opéra de Lyon. Et puis un disque, celui de Lev Ove Antnes, des Ballades et Nocturnes de Chopin. Il y aura également un coup de cœur d'Anna Segalevich, encore un disque piano, c'est vrai, les concertos de Saint-Saëns par Bertrand Chamaillou.